Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow.
Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs. Merci de suivre les aventures de l'émission Vie associative. Ah oui, j'en bafouille parce que vous allez comprendre tout de suite pourquoi, chers auditeurs. Dans deux semaines, vous retrouverez la réussite éducative. La réussite éducative. Et bien sûr, je vais vous dire pourquoi on prend l'émission sur les chapeaux de roue, chers auditeurs. On va tout de suite bientôt lancer une petite pause musicale parce qu'aujourd'hui, on a un plateau de choix. Ils sont pas là, ils sont là-bas en train de boire un coup et de se moquer. Hein, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, chers auditeurs, je l'avais annoncé, on va recevoir dans l'émission les Blues Roses. On va recevoir qui ? Le Téléthon, bien sûr, c'est la période. Le coordinateur est là, Michel Adam, mon ami, il sera présent. Il va nous représenter les objectifs du Téléthon, bien sûr. Il n'y aura pas notre directeur d'antenne car il n'aime pas Adamo, on l'a viré. Nous aurons aussi avec nous aujourd'hui France Victime 54. On va parler de plein de toutes ces associations. On va revenir sur leurs objectifs, leurs actions à venir, etc., etc. On passera des belles pauses musicales dédiées à notre directeur d'antenne. Bien sûr, notamment Adamo, son chanteur préféré que vous entendez à la matinale, bien sûr, à chaque fois sur RCN tous les matins. Oui, tu vois, là, c'est du professionnel, là. Chers auditeurs, bien sûr.
Regarde ce que tu vas passer comme musique, évidemment.
Pour pouvoir accueillir nos invités qui sont encore en train là-bas de boire du jus de pomme, de l'eau, bien sûr, on est à l'eau à RCN. Pourquoi ils sont tous là, chers auditeurs ? Parce qu'on a fait une petite émission précédemment pour évoquer les deux actions sportivo-caritatives qui ont été menées sous la bannière de RCN. Les 400 km à pied de Joris pour les Blues Roses et puis la double montée du Ventoux au cours de laquelle notre ami Julien de RCN m'a gentiment accompagné. On a Jean-Luc à la technique aujourd'hui. Donc après la pause musicale, vous verrez, ce sera une émission riche. Ou peut-être, comme vous l'avez vu au début, on a un peu bafouillé parce qu'on est nombreux, c'est un moment festif. En fait, chers auditeurs, c'est comme si le début de cette émission était une fenêtre ouverte sur un moment d'amitié conviviale, une fenêtre ouverte sur un moment de rencontre, de retrouvailles, et qu'on vous fait partager comme ça, sans rien avoir écrit, de manière spontanée. Vous allez partager la joie, l'émotion de plein d'acteurs, d'associations très importantes, hein, qui œuvrent à l'hôpital d'enfants de Brabois, France Victime 54 qu'on ne présente plus, le Téléthon, etc. Après, le grand Nicolas Perrac, à tout de suite.
Quelques lueurs d'aéroport, l'étrange fille aux cheveux d'or, dans ma mémoire traîne encore. C'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort sur Alcatraz, traîne encore. Des sanglots couleur de prison, Monsieur Caryl Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow. But a shadow, le Queen Mary est un hôtel au large de Beverly Hills, et les collines se souviennent des fastes de la dynastie qui de Garbo jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Francisco. I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Pauvre Madame Polanski, d'un seul coup on t'a pris de vie. Mais qui donc s'en souvient ici? C'est l'hiver à San Francisco. Je ne trouverai le repos qu'aux confins du Colorado. So far away from LA, so far ago from Frisco. I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow.
Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow.
Alors, chers auditeurs, vous avez entendu un nouveau jingle. Bon, je vous rassure tout de suite, hein, Adamo ne partira pas. D'ailleurs, chers auditeurs, vous avez vu, Adamo, il vient de sortir un nouvel album qu'on dédie à notre directeur d'antenne. Mais c'était quoi ça? Et c'était génial.
Ah, mais je crois que Jean-Luc, il veut zapper Adamo et changer de jingle.
Mais c'était génial. Et ça, c'est l'IA qui fabrique ça?
Faut croire, ouais.
Faut croire. Ouais, mais c'est impressionnant quand même. Ah ouais, c'est rigolo, on met des mots-clés, puis l'IA fabrique.
Vie associative sur RCN.
C'est marrant, ça.
Ah ouais. Chamallow.
Mais c'est génial, mais du coup, ça, moi, ça me fait presque un peu peur quand même, le monde dans lequel on rentre, non? Parce que c'était bien, à une époque, il y avait des gens qui concevaient, tu vois, des petites mains comme Julien. Hein, des...
Moi, parce je sais que pas faire ça, il n'y a que Jean-Luc.
Parce que je sais plus c'est quoi ton boulot, mais c'était concevoir des trucs, non?
Oui, plus ou moins. Ouais.
Pendant deux jours, on a gravi le Ventoux, il a essayé de m'expliquer ce qu'il faisait à la radio. Alors, j'ai jamais compris. Mais je pense que c'est un peu ton job de créer. Et là, l'IA, elle fabrique tout seul. Ah, du coup, tu ne sers plus à rien, toi.
Ben, au côté technique, on a encore Jean-Luc. Moi, je suis sur la partie projet, ça va. L'IA ne crée pas encore les projets à ma place.
Ce qu'il faudrait, je le dis à Jean-Luc, hein, à la technique, ce qu'il faudrait, ça serait sympa, c'est que l'IA nous fabrique des petites interventions comme ça, des petites virgules, comme on dit, par rapport aux associations qu'on reçoit, les différentes associations. Hein, parce que, par exemple, dans l'émission de la semaine prochaine, je vais faire un focus sur les Restos du Cœur. Je vais recevoir Laurence, je fais exprès la théorie de la transition, la chargée de communication des Restos du Cœur, Jocelyne qui organise la journée de distribution des jouets le 17, que j'ai réanimé le 17 décembre à la grande salle des fêtes de Vendeuvre. Et du coup, ça serait sympa s'il y a nous fabriquer un petit truc comme ça sur les restos, un truc sur les Blues Roses qui sont présents avec nous là, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, à ma gauche, pour France Victime 54 qui est à ma droite, et puis pour le Téléthon, ça serait sympa, non? Qu'est-ce que t'en penses?
Bah ouais.
T'as vu comment en disant ça, je fais ça exprès, c'est pour faire le tour de câble.
Ouais.
T'as remarqué? Non, mais c'est un métier, hein, excuse-moi.
C'est
mais est-ce que tu sais, Julien, que comme je l'ai annoncé tout à l'heure aux auditeurs, que les invités se glissaient dans le studio parce qu'ils étaient réunis dans un moment d'échange, convivialité, autour d'un bol de noix, de je ne sais quoi. Il n'y a pas de sel d'ailleurs, je vois que tu t'es amélioré.
Ouais.
Et puis des friandises. Est-ce que tu sais que c'est un peu bizarre? Parce que comme on filme l'émission, les gens vont voir qu'il y en a plein d'invités, de marques en plus, mais que le bol de cacahuètes, il est à côté de toi.
Bah
quoi.
Ouais.
Donc ça fait un peu bizarre quand même là. Excuse-moi. Donc aujourd'hui, vie associative. Pendant une heure, on va essayer de faire un focus donc sur les associations qu'on avait essayé de mettre un petit peu en relief lors des deux actions caritatives. Et toi, tu sais, Julien, d'ailleurs, c'est pour ça que tu es là, c'est bien. L'émission qu'on a enregistrée avec Thomas, notre cher directeur d'antenne.
Ouais, juste avant.
Bah, les masques, c'est ça?
Les masques tombent.
Ouais, ils sont rien à voir. Les masques tombent.
Il y a le mot masque.
Ouais. Il y a le mot masque. Elle passe quand? Et pourquoi? Et à quelle fréquence?
Oula, là, tu me poses trop de questions. Je ne saurais pas te répondre.
En tout cas, on peut la retrouver dans la grille.
On peut la retrouver. Ça sera un masque tombe, donc c'est à 13h. S'il y a un créneau demain à 13h, elle sera demain à 13h.
D'accord. Et là, les auditeurs peuvent donc écouter...
Ouais, et puis de toute façon, on fera un podcast qu'on mettra en avant.
D'accord.
Et puis les gens pourront retrouver sur le podcast le site RCN. Ils tapent Les Masques Tombent ou Émission 450 km ou Blues Rose, etc. Avec des mots-clés, on retrouve facilement.
Ouais, c'est bien, c'est bien. Vous pouvez compter sur Julien pour y arriver. Du coup, aujourd'hui, on va un peu embêter les associations parce que comme ils viennent de faire l'émission avec notre directeur d'antenne, on va leur reposer les mêmes questions. Ouais. Mais on va avoir une heure là, on va pouvoir développer un petit peu. On va donc porter un petit focus sur les Blues Roses. Bonjour, avec nous aujourd'hui, donc redites-moi tout. Nous avons
Colette Ambert, voilà. Vice-présidente du comité des Blues Roses de Nancy, accompagnée de...
Mr. Jack, le magicien des Blues Roses à Brabois, à l'hôpital de Brabois.
Ouais, et puis c'est... Moi j'aime bien magicien là parce que c'est vraiment au sens concret, c'est un magicien, puis au sens métaphorique parce qu'il apporte la magie, le bonheur auprès des enfants, bah, comme vous, hein, avec, comme toutes les actions qui sont faites par les Blues Roses. Donc bravo à vous deux, hein, vraiment. Il m'est arrivé de temps en temps, pas souvent, pas assez, bah, voilà, parce que c'est la course de la vie comme on dit, hein, mais d'être à vos côtés. Je me souviens bah, pour l'anniversaire des Blues Roses, il n'y a pas si longtemps, c'est quand qu'on avait fait l'anniversaire dans le hall là
L'an dernier, pour nos 80 ans.
Ouais, pour les 80 ans. Vous savez que j'ai encore en mémoire des spectacles qu'on avait fait pour les 70 ans, je vois encore le gâteau et tout. Ça passe les années, hein.
Ouais,
ça passe vite, hein. Mais pour les 80 ans, oui, j'avais été... Donc encore une fois, je ne l'ai pas fait souvent, mais dans ces moments-là, je me rends compte à quel point ce que vous faites, c'est important, mais surtout, c'est chargé en émotions. Ouais. Moi, j'ai toujours un peu de mal quand je repars après à vraiment arriver à retomber sur mes pieds, pas oublier, mais arriver à bien tout sectoriser, à pas emporter trop tout ce que j'ai pu voir.
Disons, au moment où tu interviens à l'hôpital pour enfants pour animer ton spectacle de clown, c'est il y a une concentration dans le hall de l'hôpital. C'est-à-dire qu'autrement, le reste du temps, les enfants sont dans leur chambre ou en salle d'attente, donc on ne les voit pas, ils ne font que passer dans le hall. Que quand il y a des animations comme ça, mais régulièrement quand même à l'hôpital pour enfants, on retrouve, il y a comme une émotion, comme voilà, chacun se retrouve avec son handicap, les enfants avec leur potence, les lits, chacun vit, mais quand, malgré tout, vient participer aux animations. Et je trouve que c'est un moment de vie, toutes ces rencontres, toutes ces animations. Indépendamment du fait d'animer, comme le fait Jack, en chambre, c'est une manière d'être avec les enfants. Mais quand il y a une animation collective, comme les 80 ans, mais bien d'autres choses qui sont proposées dans le courant de l'année, je trouve que c'est toujours très émouvant pour nous de retrouver dernièrement, c'était la ferme à l'hôpital. Hein, donc, il y avait, pareil, sous chapiteau, mais pareil, tout se passait également dans le hall de l'hôpital. Donc, je pense que ces moments-là, c'est des moments forts pour la vie de l'hôpital pour enfants.
Ouais, c'est vrai. Mais franchement, chapeau bas. Parce que j'ai souvent, enfin, pas souvent, mais de temps en temps, raconté un spectacle que... Bah, dans l'émission qu'on a faite avec notre directeur d'antenne, je parlais de Marie-Hélène Petit, hein, que vous connaissez, ouais. Le service, deuxième étage, service des enfants qui souffrent du cancer.
L'oncologie.
Voilà, exactement. Bon, merci d'être là, vous avez le vocabulaire, la terminologie que j'ai pas, bravo. Et un jour, Marie-Hélène Petit m'avait appelé pour venir faire un anniversaire d'un enfant, et dans une petite pièce, là, au deuxième étage. Et en fait, il voulait absolument que ce soit le clown qui tienne les paquets d'anniversaire. Il y avait sa famille, sa maman, tout ça. Et je tenais. Et 3 jours après la petite animation pour son anniversaire, Marie-Hélène nous avait appelé et nous avait dit que ce petit ange de 4 ou 5 ans avait voilà, rejoint le paradis des enfants. Et ça a été terrible parce que pendant longtemps, aujourd'hui encore, j'y pense, c'est que ses doigts qui effleuraient les miens au moment où il tirait sur le ruban, le bolduc, il déchirait le paquet. Et voilà, c'est pour ça que je vous rends toujours hommage parce que c'est pas toujours facile. Quand on a fait les 80 ans, il y avait des enfants, vous savez, dans les lits avec les barreaux, là, qui étaient descendus exprès, qu'on avait amené exprès pour avoir un ballon, une sculpture sur ballon, voir un petit peu de jonglage. Et je me souviens, il y a une maman qui, je discutais avec une maman, elle me disait, bah, c'est déjà sa 5e opération. Et moi qui deviens fou dès que Adèle se cogne à un coin de table, etc. Et dans l'émission qu'on a faite donc avec Thomas, je vous disais, mais les héros, c'est pas les petits, les oseauteries, les défis qu'on a pu faire, c'est déjà c'est vous. Et à travers vous, je pense à France Victime 54 à qui on va donner la parole dans quelques instants, mais c'est les victimes, c'est les enfants, c'est les parents des enfants, les parents que je croise souvent au Téléthon. Tout à l'heure, on entendra Michel Adnan nous parler du Téléthon, mais ensemble, on a souvent croisé aussi des parents. Je pense aux journées pour les familles, une qu'on avait faite à Velenoé, où une dame était venue me voir, où elle aussi, elle avait évoqué son enfant, son étoile, comme elle disait, parce qu'elle m'avait mis un petit mot quand on avait fait Nancy Paris à Monocycle, elle m'a mis un petit mot, puis elle était venue me voir à Velenoé pour me dire « Je suis la maman de la petite étoile », parce qu'elle avait appelé comme ça son enfant sur un message qu'elle m'avait mis de soutien pendant le défi. Et tout, voilà, moi je dis ses parents, vous, dans les chambres d'enfants, etc., on peut faire tout ce qu'on veut, on peut monter 1 milliard de fois le Ventoux. Jamais on aura, enfin, en tout cas pour ce qui me concerne, le courage, voilà, cette espèce de dignité, de courage d'affronter tout ça. Moi, ce que vous faites, j'en serais incapable, au quotidien en plus.
Oui, tu as raison, Chamalo, de le souligner, parce que pour nous, ça serait un peu notre point faible si on rentre trop dans l'affectif.
Oui.
Si on rentre trop dans l'affect, eh ben, au bout de 2 mois, on va exploser. C'est ce qu'on nous dit au départ, quand on est blues rose au départ, on nous dit ne rentrez pas dans l'affectif, il faut un petit peu mettre des barrières. Sinon, on prend toute la misère des enfants, et puis là, c'est nous qui faisons la dépression, quoi. Alors, c'est ça le plus dur à faire, de se mettre un peu en retrait, alors qu'on voudrait être tout proche, faut trouver le juste milieu, quoi.
Être à l'écoute quand même.
Et c'est pas toujours facile.
Mais surtout des familles, je crois que l'essentiel, c'est quand même être à l'écoute des familles qui vivent ces difficultés-là, quand même. Hein. C'est très important, hein.
Ah oui, quelquefois, les parents viennent se confier à nous, donc on prête une oreille, on n'intervient pas, on fait un peu comme ça, on bouge juste la tête. Mais ça les soulage parce qu'ils n'ont personne à qui parler. Le personnel médical en sort ne peut pas les entendre, alors que nous, on est là à leur écoute. Hein, et je pense que ça fait du bien aussi aux parents, c'est vrai.
Oui.
Mais c'est un équilibre où je vous admire parce que je vous connais. Les gens, il y a un autre zozo à ma droite là qui parlera tout à l'heure à propos du Téléthon. C'est vous êtes tous des gens que je connais, pour certains que je connais depuis un moment, et je sais que vous êtes. Vous savez, c'est Albert Camus qui disait il y a plus de choses à admirer qu'à mépriser dans l'homme à la fin de la peste. Et vous faites partie de ces gens. Je vous connais. Il y a une sensibilité exacerbée. Vous êtes dans ces associations là parce que voilà, il y a de temps en temps vous êtes ému, touché. Voilà, c'est vous donner les lettres de noblesse à l'humanité. On peut l'écrire avec un grand H, même si des fois on écoute les médias, on se dit tiens, des fois on se dit bah quand même l'humanité. Mais en fait non, c'est vous. Depuis que je vous connais, voilà, je me dis voilà, l'humanité, c'est quand même c'est quelque chose de beau, quoi. Hein. Et c'est chouette. Mais en même temps, du coup, vous avez, c'est un équilibre. Parce que c'est pareil, Michel Adnan, il nous le dira tout à l'heure, mais on a souvent parlé, il me parle tout le temps des enfants, des victoires sur la maladie, dans l'émission qu'on a enregistrée tout à l'heure, il évoque encore un enfant qui, voilà, maintenant, a réussi à grimper les 2 étages de la Tour Eiffel, alors que sans la FM, il serait en fauteuil. J'entends à sa voix et tout, et Mister Jacques aussi depuis des années, une grande sensibilité, mais par contre, il faut effectivement ne pas l'emporter à la maison, tout ça. Donc c'est un équilibre. Ben moi que je trouve admirable, parce que c'est pas facile, c'est un exercice de funambule. Moi je sais que je suis tout le temps en train de pleurer quand j'avais été venu acheter des portions de tarte de fraises au Blues Rose, au Cora Oudemont. Et rien que le fait que je voulais les emmener à vélo pour les emmener à Réalise, alors que c'était impossible d'en prendre autant à vélo, c'était n'importe quoi. Et qu'une Blues Rose que vous connaissez, Gigi, me dit non mais arrête, tu peux pas les emmener à vélo, en plus c'est de la pâte feuilletée, ça va être cassé. Rien que le fait qu'elle aille chercher son époux avec une voiture pour m'emmener à Réalise, offrir aux enfants qui s'y attendaient pas quand je suis arrivé le soir, amener des tartes de fraises, des parts de tarte aux fraises qui venaient des Blues Rose, moi j'ai craqué parce que cette espèce de solidarité. Vous savez, bon après c'est moi aussi, hein, je regarde la petite maison à Prairie, je pleure à chaque fois, mais mine de rien, et on a quand même une sensibilité qui fait qu'on se dit, oui il y a des gens des fois qui nous arrêtent, mais pourquoi tu passes autant de temps au Téléthon, pourquoi tu passes autant de temps avec les... Mais parce qu'il y a quand même des gens qui semblent être mus par d'autres préoccupations, gagner de l'argent, je sais pas, acheter des choses, et vous, vous êtes des personnes qui, voilà, qui redonnez ces lettres de noblesse et tout ça, et pourtant comme tu dis Mister Jacques, il faut arriver à le canaliser pour ne pas l'emporter et finir en dépression. Mais je trouve que ça ne doit pas être facile tout le temps. Parce que si vous y êtes, c'est par sensibilité. Et en même temps, il faut arriver à le canaliser. Ça ne doit pas être facile.
Non, effectivement, il faut mettre notre mouchoir par-dessus. Hein, ouais. Parce que quelquefois, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on perd un enfant, c'est dramatique. Ah bon. Hein, ouais. On s'en est occupé pendant des semaines. Et puis, et il y a certaines blues roses qui disent oh, « bah, je vais aller à l'enterrement, je vais aller suivre la famille ». On a dit « surtout pas, surtout pas ouais, ». Non. On est obligé de se couper, de se protéger.
Ah ouais, non, c'est pas facile. Mais en tout cas, bravo. Hein. Et en plus, je crois, les Blues Roses, vous nous en direz tout, parce que faut toujours la gestion du temps à la radio, surtout moi qui suis une pipette, mais, je sais que vous êtes aussi pas sectorisé, le mot n'est pas beau, mais vous allez dans des services, il y a une organisation, par exemple, je sais qu'il y a une Blues Rose qui me disait un jour, elle allait tout le temps en dialyse. C'est ça, vous avez tous un peu, pas des secteurs, je sais pas comment vous dites.
Oui, on a un peu notre spécialité, quoi, en quelque sorte, hein. Ceux qui, justement, ne veulent pas se confronter trop à la maladie, ils vont simplement dans les salles d'attente faire patienter les enfants. Là, c'est moins dur. Oui. Par contre, quand on est en oncologie, alors là, c'est le pire. Hein. En dialyse aussi, c'est très, très dur. Et par contre, entrer dans les chambres...
L'hôpital de jour aussi.
Pardon ?
L'hôpital de jour.
Oui, oui. Mmh. Par contre, entrer dans les chambres, on ne sait jamais ce qu'on va trouver derrière. On voit, on entre et on trouve la souffrance d'un enfant, il a des tuyaux partout, il a mal, puis d'autres fois, bon, il a juste eu une appendicite, et ça se passe bien. Donc on a toujours aussi un peu cette contraction avant d'entrer dans la chambre, comment ça va se passer, quoi.
Oui, c'est sûr. Bravo à vous. Et aussi, juste une dernière petite parenthèse, bravo aussi parce que depuis quelques années, on avait été ensemble d'ailleurs pour les 70 ans, vous allez dans certaines maisons de retraite de Nancy ou de la périphérie, je ne sais pas exactement.
Nancy.
C'est Nancy. Oui, Nancy même, Nancy. D'accord.
L'Axou.
L'Axou. D'accord. Je sais qu'on avait été, hein, pour les 70 ans, on avait été aussi. Et là aussi, hein, on n'en sort pas indemne non plus, là, parce que... Alors, dans les spectacles, hein, toi, magie ou les clowneries, on n'a pas le même feedback quand on est sur scène, mais en fait, on se rend compte, quand on prend le temps d'essayer de s'en rendre compte, après, d'aller échanger, tout ça, que voilà, c'est aussi très fort en émotion, quoi. Là aussi, moi, j'en sors jamais indemne parce que, voilà, il y a des personnes dans les maisons de retraite où vous allez, on sent, ils aimeraient nous dire tellement de choses, il y a un échange de regards. Enfin, c'est fort aussi, non? C'est bien que vous ayez maintenant ce...
Alors, disons, ce qu'il y a, c'est qu'en maison de retraite, les Blues Roses qui interviennent, elles sont en équipe. Mmh. Donc, ça aide à prendre en charge, puis en général, ils ne prennent pas en charge dans les chambres, ils prennent en charge les personnes âgées dans des salles. Donc, il y a toute une équipe qui structure un groupe de personnes âgées. Nous, à l'hôpital, on intervient toujours en binôme. On n'intervient jamais individuellement parce que, justement, il y a ces difficultés de rencontre. Parce que là, on rencontre quelquefois des personnes qui sont plus ou moins malades, quoi. Donc, il y a quand même le fait, au sein de notre association des Blues Roses, le fait d'être en équipe ou en binôme, toujours par rapport à cette organisation. On parlait tout de suite parce que c'est structuré, notre association. On intervient en milieu hospitalier. On ne peut pas faire ce qu'on souhaite faire. On répond à une structure qui a besoin de nos services pour aider les enfants, mais on ne peut pas faire ce qu'on souhaite. On est obligé de répondre à cette demande-là.
Bon, en tout cas, bravo. Bravo, Blues Roses. N'hésitez pas à interagir sur les associations qui vous font face. Mais merci mille fois d'être là. On ne le dira jamais assez. Merci beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, je crois que j'ai connu Mr. Jack. Ça fait. Voilà, il est au sommet, là, au panthéon de pour moi, comme Michel. Voilà, c'est des personnes admirables. Mais c'est rigolo parce que je crois qu'on s'est rencontrés grâce à la radio. Quand j'étais à un autre micro il y a bien longtemps. Mais c'est par le biais d'une intervention au micro qu'on s'est croisés. Donc. Il y a un symbole là. Derrière tout ça, c'est rigolo, quoi. Tu venais nous parler des Blues Roses déjà, donc c'est super. Je vais me tourner vers France Victime 54. Et c'est pas que je le mets en stand-by, mais ouais, c'est le jaune du Téléthon est un de nos fils rouges. Alors on va y revenir tout de suite, mais France Victime 54. Donc on s'est rencontrés lors d'une action il y a 2 ans un peu plus, puisque c'était le 10 septembre, il y a 2 ans. Moi, j'avais demandé à ce que un des défis sportifs soit fait sous l'angle donc des violences faites aux femmes. encore une des plaies qui ne cesse d'être la plaie, une des plaies de l'humanité, incompréhensible, et tout simplement parce que ça, je vais pas développer, mais j'ai connu tout ça pendant toute mon enfance, encore une fois, les nuits à appeler la police, les cris, etc., etc., enfin tous les horaires, en plus à une époque où, Dieu merci, il y a quelques améliorations là de soutien, de sauvegarde, bah grâce à des organismes ou des associations comme vous. Et du coup, c'est là qu'on s'est rencontrés, votre présidente, qu'on salue, hein, qu'on embrasse, hein, Anne-Sophie Gabrielov, que l'on salue. Et du coup, bah, là, j'ai été très touché par toutes vos actions. Alors, encore une fois, c'est cet angle-là qui m'a fait vous connaître, mais je vais vous donner la parole. France Victime 54, ce n'est pas que cet aspect-là, mais c'est ça qui m'a amené vers vous. Et comme on enregistre cette émission pour le direct, en tout cas, le 26, c'est-à-dire le lendemain de cette journée, il faudrait que ce soit tous les jours d'ailleurs, hein, de lutte contre les violences faites aux femmes. Eh bien, du coup, je suis content que vous soyez là et on est content, d'ailleurs, avec Julien qui est à ma gauche, qui a abandonné de piocher dans les cacahuètes, là. On est content d'avoir porté au sommet du Ventoux la bannière France Victime parce que je sais que, malheureusement, hein, votre champ d'action est très vaste. Dites-nous tout. Qu'est-ce que France Victime 54?
D'accord. Alors, c'est vrai, oui, vous le dites. Ouais, si je te voyais, c'est plus facile, mais tu le dis bien, Chamalo. Ouais. On nous connaît peut-être plus par rapport à cette action auprès des femmes victimes de violences intrafamiliales, conjugales. Mais à la base, c'est il y a 40 ans, une idée de M. Badinter qui voilà, venait de changer beaucoup de lois pour la prise en charge des auteurs de violences, des détenus et tout ça. Il s'est dit quand même, bon, ben voilà, je me suis occupé des détenus, j'imagine un peu un monde autrement. L'arrêt de la peine de mort, par exemple. Mais il se dit, voilà, il y a des victimes quand même dans tout ça. Il faut aussi s'en occuper. Alors, il s'est un peu questionné, il a cherché à vie, il y a eu un rapport, comme on fait des fois sur certains sujets. Sauf que ce rapport-là, effectivement, a été suivi des faits. Il a dit, bon, ben voilà, il faut qu'on crée un service ou en tout cas, il faut qu'on trouve des professionnels pour accompagner les victimes dans le parcours judiciaire parce que ce n'est pas facile pour eux, pour elles. Elles se sentent souvent abandonnées, isolées, pas comprises, pas entendues. Et donc, il y a 40 ans, il a décidé qu'il fallait que des associations, en tout cas, il a souhaité que des associations soient créées et s'emparent de cette question d'accompagner des victimes d'infractions pénales. Donc effectivement, l'infraction pénale, ça va du vol à l'arraché, de l'agression physique qu'on peut subir, de l'escroquerie à la carte bancaire, à des choses plus graves, effectivement, comme les violences sexuelles, les violences conjugales. Vaste programme. Mm-hmm. Effectivement, avec les années, d'autres ministres ont souhaité aussi qu'on s'inquiète des catastrophes naturelles, des victimes de catastrophes naturelles, des victimes de catastrophes industrielles. Pour ne pas laisser les personnes seules face à des démarches administratives, dont entre autres celles avec la justice, les laisser tout seuls. Donc effectivement, nous, ça nous fait un large périmètre. Alors, c'est des professionnels hein, qui viennent à la rencontre des victimes. Donc c'est des juristes, c'est des psychologues, c'est des assistantes sociales qui vont quelque part se mettre à disposition de la victime, vont même aller vers elle, parce que souvent c'est pas facile pour la victime aussi de se dire je suis victime. Il y a aussi un peu une honte. Qui n'a pas un petit peu honte des fois quand il se fait avoir avec les petites annonces là qu'on reçoit sur Internet, sur SMS ou autre, et on pense que c'est du vrai et on répond, puis là, ah zut, non, c'est une bêtise. Bon, on ne s'en vante pas trop en général, et puis on se dépêche d'essayer de faire disparaître ça tant que ça ne coûte pas trop de sous, et puis on n'en parle plus. Sur une petite chose toute simple comme ça, on voit bien comment on n'est pas à l'aise. Alors, sur des choses plus graves, sur des préjudices plus graves que vont subir les gens, c'est difficile de dire « j'ai pas su me protéger, j'ai pas su protéger les autres ». On me dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça, mais comment ça marche tout ça? Est-ce que ça va suffire à ce que ça s'arrête, la violence? Est-ce que ça va suffire à ce qu'on me redonne mon bien qu'on m'a volé et que j'aimais bien, même s'il n'avait pas une grande valeur monétaire, financière, mais que sentimentale? Donc, c'est vrai que les personnes qui sont victimes, c'est dur pour elles. C'est dur pour elles déjà, donc de venir. Et donc, effectivement, une de nos missions aussi, c'est déjà juste de les informer de leurs droits, de ne pas les juger. Par rapport à ce qu'elles ont peut-être fait, peut-être comme erreur ou pas, mais donc de les écouter, de les informer de leurs droits, et après, si elles le souhaitent, de les accompagner le mieux possible pendant le parcours judiciaire. Effectivement, ça va amener souvent ce qu'on appelle le dépôt de plainte. Si on est sur des atteintes à la personne, ça veut dire souvent qu'il y a eu des blessures, donc il faut aller faire un examen médical pour faire la preuve des préjudices subis. Donc comment ça marche ça, c'est impressionnant, ça peut faire peur, donc on essaie de leur rendre ça le plus simple possible, le plus compréhensible possible, pour que quelque part, ils aillent jusqu'au bout de la démarche. Donc, c'est vrai que c'est du temps de discussion, d'échange. Laisser le temps aussi, parce qu'on ne doit pas décider à la place de la personne. On doit accepter aussi peut-être que quelquefois, elle n'est pas prête tout de suite à faire les choses et qu'elle voudra attendre un certain temps. En tout cas, dans les violences conjugales, entre autres, intrafamilia, c'est ce qu'on dit. Hein, on dit qu'il y a une statistique qui reste d'actualité malgré que ça date des années 90. C'est cette histoire des 7 allers-retours, peut-être, d'une victime qui ça prendra 7 fois peut-être avant qu'elle s'éloigne de l'auteur définitivement. Parce que phénomène d'emprise psychologique, parce que culpabilité, isolement, difficulté à faire le deuil d'une vie de couple qu'on pensait idéale, peur de faire mal aux enfants, parce qu'on va quitter un confort matériel pour une précarité qui ne sera peut-être pas simple. Donc tout ça, c'est des freins psychologiques pour la victime. Et donc sur la question de la violence conjugale, c'est important, mais même sur d'autres actes, oui.
Quel est le moyen de connaître cette association quand on rencontre une difficulté? Quel est le biais pour prendre connaissance du recours qu'on peut avoir?
Alors, c'est vrai que on ne fait pas une publicité énorme partout, oui. On met pas les panneaux partout, mais normalement, lorsque, par exemple, vous allez déposer plainte au commissariat, à la fin du PV d'audition, il y a nos coordonnées. Alors, c'est vrai qu'on a, on est, c'est pas folichon d'aller déposer plainte, et donc, en général, on lit pas jusqu'au bout la 8e page, mais par exemple, à la fin de l'audition d'un dépôt de plainte, il y a nos coordonnées pour nous contacter et pour nous dire, écoutez, je viens de déposer plainte, mais je suis un peu perdu dans tout ce qui va se passer. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Voilà, là, il y a les coordonnées, par exemple, de France Victime 54. Normalement, on nous demande, nous aussi, de prendre contact avec les victimes par moment, parce qu'elles ont porté plainte il y a un an et demi, et un courrier est supposé de leur dire que bientôt une audience va arriver et qu'il faudra être présent pour effectivement qu'il y ait un jugement peut-être rendu par rapport au préjudice subi. Et là, quelquefois, le courrier n'arrive pas nécessairement, ou en tout cas, les gens s'arrivent, ils n'étaient pas préparés. Donc, depuis quelques années, la justice nous demande d'aller vers les personnes et de les appeler. Et de les appeler, de les contacter et de leur dire, bonjour, France Victime 54, vous avez porté plainte il y a un an et demi par rapport à tel préjudice que vous avez subi, tout ça. Est-ce que vous êtes au courant que dans 15 jours, 3 semaines, il y a l'audience? Est-ce que vous avez eu le temps de vous constituer partie civile? Est-ce que vous avez pensé à vous faire accompagner par un avocat? Et effectivement, on voit que des gens, malheureusement, peut-être des fois le courrier s'est perdu, mais en tout cas, ils l'ont reçu même, mais ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils doivent préparer, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et puis des fois, ils ont un peu oublié ça. Ce qui est un peu humain aussi, parce qu'ils avaient aussi un peu besoin d'oublier ça, parce que sinon, si on pense à ça tous les jours, on n'est pas bien. Donc là, tout d'un coup, ça revient sur la surface. Donc, on est là aussi pour commencer un petit peu à expliquer les choses. Alors, il y a des gens, ils sont bien au fait, ils ont des assurances, des amis qui les renseignent, qui les accompagnent. Ils n'auront pas trop de problèmes, mais voilà. C'est vrai qu'on va déposer plainte, on est là. Nous, on a plusieurs partenaires qui vont, par moment, des travailleurs sociaux ou autres, parler de nous en me disant, vous avez eu des difficultés, vous avez dû porter plainte, ou en tout cas, vous vous demandez si vous devez porter plainte, allez voir France Victime 54 à la Cité Judiciaire et vous expliqueront comment ça marche.
Oui, parce qu'au-delà d'être victime d'une infraction pénale, il y a aussi toute la démarche de justice, il y a quand même un peu ce truc de la justice, elle est importante, mais on remue quand même un peu le couteau dans la plaie de ressasser, de demander de répéter les faits, d'être présent à l'audience aussi, ça doit pas être évident. Il y a toute une démarche où, en fait, certains sont laissés à l'abandon et c'est là où ils ont besoin de vous, quoi.
Disons que c'est pas facile, en tout cas pour. C'est vrai que les délais de la justice, alors la justice, on est consciente du fait que ces délais, sans le vouloir, parce que ce n'est pas leur souhait, fait du mal aux victimes, quelque part. Et donc, plus longtemps ça dure, alors certains vont essayer d'effacer, ou voire même faire, sur des actes les plus graves, des viols, des violences physiques, vont faire des psychothérapies, un certain travail, et puis peut-être aller mieux. Et tout d'un coup, 4 ans plus tard, on leur dit, il va falloir revenir à la cour d'assises. Alors, une des choses qu'on fait maintenant aussi à France Justice, c'est qu'on accompagne les victimes pendant le procès. On est à leur côté physiquement, voire même on les reçoit avant. Okay. On va leur faire visiter le lieu pour qu'ils sachent un peu où est-ce que ça va se passer. Les collègues juristes vont leur expliquer comment ça va se dérouler, ce procès. Parce que, tant qu'on n'est pas de la partie, on ne sait pas qu'il y a un plan de procès, que normalement, un tel interviendra en premier, un deuxième, un troisième. Et là, la victime, elle ne sait pas tout ça, elle ne s'imagine pas. Et elle ne sait pas quand est-ce qu'elle doit parler, pas parler. Donc là, on prend le temps de lui expliquer tout ça, comment ça se déroulera, peut-être sur 2 jours, 3 jours, 4 jours. Voire par moment, quand on la sent très fragile, ou même que les collègues de la justice, les magistrats et autres greffiers les sentent fragiles, ils vont nous demander des fois si on ne peut pas faire peut-être un accompagnement psychologique un peu aussi. Ils vont nous demander voir. Alors maintenant, on a la chance aussi de faire la médiation animale avec un chien d'assistance judiciaire. Mmh. Et on s'est aperçu qu'avec la présence du chien, les victimes, qu'elles soient mineures ou majeures, ben, se sentent mieux. En tout cas, elles arrivent à prendre la parole, parce que c'est ce que nous disent les magistrats, procureurs ou autres, mais c'est que des fois, c'est compliqué, parce que la victime, elle n'ose pas parler, n'ose plus répondre, elle est dans un mutisme, et donc, ben, on sent qu'on la fait souffrir. De la re-questionner encore plus, pour lui redemander encore plus, de raconter ce qui s'est passé il y a 4 ans. Donc là, ben, la présence, par exemple, de la médiation animale, qui est quelque chose qu'on fait maintenant depuis plus de 2 ans, ben, c'est une aide pour la victime. Et le fait de la préparer aussi, et de l'accompagner après, parce qu'on sait bien que ce n'est pas parce qu'il y aura eu le procès que l'auteur sera condamné, que la victime, pour elle, tout est réparé et que tout est oublié. Donc, il y a aussi tout un accompagnement à prévoir après. Et donc, ben, ça se fait, c'est vrai, beaucoup en accompagnement individuel, mais on commence aussi à faire de l'accompagnement collectif, aussi, par exemple, à travers un groupe de parole de femmes victimes de violences intrafamiliales conjugales. Parce qu'on sait que dans la violence, dans ces situations de violence, souvent, les victimes sont isolées. Et elle pense que, en tout cas, elle culpabilise beaucoup et elle pense que c'est elle, un peu quelque part, qui ont peut-être mis tout ça en route. Et le fait donc de rencontrer d'autres victimes qui finalement ont vécu les mêmes choses et qui finalement, c'est « Ah bah toi aussi, ah bah toi aussi, ça s'est déroulé comme ça ». Donc quelque part, ça vient leur faire, en tout cas, se faire sentir moins seul, moins isolé. Et puis s'apercevoir, comme elles disent certains, bah, finalement, je ne suis pas si bête que ça, quoi. J'avais raison de penser que...
Bah et oui. C'est pas les victimes qui sont auteurs du problème, quoi. C'est vraiment, elles sont victimes et c'est via un groupe, c'est plus simple de se rendre compte.
Mais c'est vrai que c'est un processus. La violence, ça commence rarement de manière très violente, fortement. C'est les petites violences du quotidien qui commencent par le dénigrement. Ah, qu'est-ce que c'est moche ce que tu portes, tu sais bien, j'aime pas que tu t'habilles comme ça. C'est l'isolement. Ah non, on va pas chez ta mère parce que tu sais, de toute façon, quand t'es pas là, elle raconte plein de trucs pas sympas sur toi. Voilà, c'est des choses qui font que petit à petit, la personne va se retrouver un peu isolée, elle se retrouve dénigrée, elle n'a plus confiance en elle. Et donc, quelque part, bah, elle a du mal après à s'imaginer qu'elle est une victime. Et ça va donc prendre du temps à déconstruire cette espèce de carapace psychologique négative qu'on va appeler emprise, nous, dans notre terminologie professionnelle. Et c'est vrai que ça, bah, voilà, c'est de la patience, c'est essayer de ne pas les juger. C'est accepter peut-être quelquefois bah, elles ont commencé à travailler avec nous, elles disparaissent quelque part, on va dire, on ne les revoit plus, elles ne répondent plus aux appels, et tout d'un coup, 1 an, 2 ans plus tard, elles reviennent. Et elles disent, bah, voilà, je suis désolé, mais j'étais peut-être pas prête, ou en tout cas, je pensais que ça s'arrêterait, il a recommencé, est-ce qu'on peut se revoir? Oui, pas de problème.
Mais il faut respecter le temps que ça prend aussi. Quoi.
Oui, c'est difficile. Hein, parce
chacun a sa temporalité, il n'y a pas de procédure...
Bah, y a pas de recette miracle, magique. Bah oui. Ça se fait pas qu'une injection d'un médicament tel. C'est vrai que c'est... il faut accorder du temps à chacun et à chacune. Et c'est vrai que, quelque part, c'est pour ça aussi qu'on en parle. On essaie d'en parler. Et toutes les manifestations qu'ils peuvent faire à un moment donné, qu'on parle de ces sujets-là et qu'on essaie de faire voir que c'est pas normal de vivre certaines choses, ben voilà, c'est important quelque part, partout où on peut dire ben non, personne ne mérite d'être frappé, personne ne mérite d'insulter, non, vous n'êtes pas nul, non, vous n'êtes pas con. C'est important, parce que c'est tout ce travail des fois de destruction de l'image d'une personne qui va lui faire qu'elle se rend plus compte qu'elle est une victime.
Chaque cas est particulier.
Oui, chaque histoire est différente. Alors, bien sûr, avec l'expérience, on s'aperçoit qu'il y a certains fils conducteurs, il y a des choses qui se répètent, mais de manière différente. Donc, après, ben voilà, il faut accorder du temps à la personne pour l'aider à prendre conscience. À prendre conscience que ce qu'elle vit, c'est de la violence. Donc, voilà, c'est vraiment cette question-là. Nous, en tout cas, c'est accorder du temps, mais c'est vrai que c'est difficile.
Mais c'est bien cette approche d'une individualisation, comme disait notre ami Blues Rose, de chaque cas particulier, etc. Parce que en vous écoutant là, ça me touche énormément, parce que on se rend compte, on avait parlé une fois dans une émission avec votre collègue, avec Anne-Sophie, qu'on embrasse encore une fois, mais c'était que il y a aussi un sentiment, il y a un sentiment amoureux. La personne violente, elle trahit, un sentiment dont elle profite, parce que souvent voilà, comme vous dites, moi je pense souvent, c'était ma maman, donc on va dire souvent une femme, elle va dire bon bah ça n'arrivera plus, je vais réessayer, parce qu'il y a ce sentiment dont profite la personne violente, parce que et souvent ce sentiment qui est là parce que ça accentue encore la douleur, parce qu'il y a sentiment, c'est-à-dire que c'est difficile d'être violenté par quelqu'un pour lequel on a des sentiments forts, ça accentue encore plus la violence. Mais en plus, ça va créer des fractures au niveau familial, même peut-être avec les enfants qui disent « Mais pourquoi on part pas ? Mais pourquoi on s'en va pas ? Pourquoi ?» Voilà. Et souvent, la maman, elle est prise entre ces deux-là, entre un sentiment, vouloir redonner une nouvelle chance, mais du coup, ça crée des liens avec des personnes de la famille, voire très proches, voire les enfants, etc., des tensions. Et c'est tout ça qui est violenté. C'est, ce qui est violenté, c'est aussi c'est ce lien d'affection et qui est très difficile à vivre aussi, parce que c'est vrai que souvent ben, ça revient 2, 3, 4 fois, mais pourquoi ? Ben parce qu'il y a un sentiment qui fait qu'on redonne une chance, une nouvelle chance, on finit par nous faire croire que cette vie faite de douleurs, de moments auxquels on croit parce qu'ils ont l'air beaux, jusqu'à une rechute, ben finalement c'est la vie. Peut-être qu'on la mérite, cette vie-là, peut-être que c'est un peu de notre faute, que c'est comme ça. Et je trouve ça magnifique que vos associations existent maintenant, parce que, voilà, on peut aller parler, puis grâce à vous, se rendre compte bah, que cette réalité qu'on nous présente et qu'on croit que c'est la réalité, bah, finalement, c'est pas la réalité, parce que personne ne mérite de vivre ça. Voilà. Mais c'est seulement parce que vous êtes là en parlant. Parce que finalement, il y avait des époques aussi, quand vous n'existiez pas, tout ça, bah, c'était dans des alcôves familiales, on ne pouvait pas en parler. Je trouve que c'est bien que cette parole-là se libère quand on vous écoute aujourd'hui, qu'on en parle. Parce que finalement, à une époque, quand on en parlait moins, bah, finalement, c'était difficile ne serait-ce que de parler. Parce que c'était difficile quand même, et pour les enfants à l'école, et pour les mamans. Parce que le simple fait d'évoquer, ça voulait dire je suis différent d'eux. J'essaie de vous présenter que ma vie aussi elle est bien, que mes enfants vont bien, que tout va bien, mais j'aimerais tellement vous dire que c'est pas vrai, mais je suis gêné de dire que bah, parce que finalement on culpabilise, on se dit bah finalement la vie que j'offre à mes enfants est peut-être pas idéale, tout ça, mais finalement la parole, parler, c'est bien, parce que oser parler, c'est ensuite pouvoir enclencher grâce à vous des procédures et s'en sortir.
C'est vrai que cette prise de parole, en tout cas, elle est importante, parce qu'il y a des gens, ce qu'on voyait moins, en tout cas, on a accueilli des personnes de plus en plus âgées, des personnes de 70 ans et plus, qu'on ne voyait pas souvent avant, venir nous voir dire « je suis victime de violence ». Une dame de 82 ans, il n'y a pas si longtemps, qui dit « moi, je ne peux plus, je ne peux plus vivre ça, ce n'est pas possible ». Et effectivement, qu'elle vivait ça depuis très longtemps, mais là, pour elle, aujourd'hui, elle était arrivée à dire c'est de la violence que je vis, c'est pas de l'usure de la vie de mon couple, quoi. C'est pas ça une vie pour le meilleur et pour le pire. Non, ces vieux dictons-là, en tout cas ces vieux adages-là, elle disait non. Et puis effectivement, je pense qu'elle en est. Toutes ces personnes de cette génération en viennent aujourd'hui à dire ça, peut-être aussi parce que, oui, elles ont entendu d'autres personnes en parler. Mmh. Et c'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi, Chamalo. Plus les choses se parlent, bah, ça devient un sujet de société, donc c'est moins tabou. Ouais. Donc, on n'ose plus en parler et donc de re-questionner ce qu'on vit, ce qu'on voit. Mmh. Parce qu'effectivement, il y a même des gens qui viennent nous voir en disant, bah, voilà, moi, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, là, parce que bah, je ne faisais pas attention ou je pensais que c'était de l'ordre du privé, donc je n'ai pas mêlé des affaires de mes voisins. Mais là, je m'aperçois que non, c'est de la violence. Hein. Je suis témoin de violence, donc je ne peux pas pas rien faire.
Enfin, on vit quand même dans un monde de violence. Donc, c'est savoir où est la limite entre le monde dans lequel on vit, ce qu'on vit au quotidien, la relation dans notre vie professionnelle ou même dans notre vie tout court. Je pense que le monde est un peu particulier parce que, justement, en parlant de victimes, moi, l'observation que je fais aussi, à quel moment on se déclare victime ? Justement, du fait de cette violence omniprésente, quelles sont les victimes ? Quand on est au volant de sa voiture, quand on rentre à la maison, quand on voit ses voisins qui nous insultent, ou je ne sais pas, parce que c'est le quotidien de beaucoup de monde.
C'est vrai qu'on a tous un degré peut-être différent de tolérance à certaines choses. Mais à un moment donné...
Qu'est-ce qui est acceptable ?
Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Oui. Alors, effectivement, ça évolue avec nos époques.
Oui.
On a tous dit à une époque que tel type de comportement, c'était la norme. Mm. Aujourd'hui, notre société, elle dit que certains comportements, ce n'est plus normal. Mmh. On a pu penser que c'était bien? Non, on s'est trompé. On s'est trompé, ce n'est pas bien. On voit bien que ça ne mène à rien, que ça ne mène pas, que ça détruit les vies. Mmh. Et effectivement, il y a des époques où on n'avait pas conscience du mal, peut-être, qu'on causait en se comportant de telle et telle manière. Alors effectivement, on ne peut pas toujours refaire la guerre et revenir en arrière sur ce qui s'est fait, mais en tout cas aujourd'hui...
Comme le harcèlement.
Pendant longtemps, on a banalisé. Mmh. On a banalisé, c'était pas grave. C'était pas grave de traiter l'autre, de lui courir après avec des bâtons, de lui jeter des pierres. C'était un jeu. C'était un jeu comme un autre. Voilà, on a vu plein de gamins jouer à ça. On a peut-être même soi-même, gamin à l'époque, joué à ça. Et dans la cour d'école ou ailleurs, avec un regard des maîtres ou des maîtresses qui n'étaient pas plus... qui n'intervenaient pas plus que ça. Parce que nous n'avions pas conscience de la douleur qu'on infligeait aux autres. Et là, ben, la société, elle évolue. Mais effectivement, ce n'est pas facile de faire changer la société. Tout le monde, ça prend du temps avant de convaincre tout le monde que certains comportements, ce n'est pas acceptable. Et puis après, ben, faire changer les lois, ça prend du temps aussi. Trouver le moyen d'accompagner les gens, ça prend du temps aussi. Hein, je veux dire, et puis, ça coûte aussi des sous. Donc, on doit faire des choix de société.
Oui, pardon, vous me voyez lever le doigt, mais c'est ce rôle totalement ingrat qui est le temps, et je voudrais laisser les dernières minutes d'émission au Téléthon, mais en fait, en vous écoutant, je me dis, ouais, c'est un rôle terriblement ingrat que Julien connaît, qu'on connaît tous à la radio, et malheureusement, parce que le temps, c'est notre ennemi, tiens, il faudra, un jour, je viendrai aussi à France Victime 54 en tant qu'animateur victime de ce temps-là, cette horloge, c'est une belle métaphore, voilà, le temps, la condition humaine, qui est très symbolisée à la radio, donc on va donner la parole au Téléthon, mais en vous écoutant, je me dis, on refera, hein, bien sûr, on l'a déjà fait pour toutes vos associations, mais on refera des émissions peut-être un peu moins polyphoniques, mais aujourd'hui, j'ai des auditeurs au début, c'était intéressant cette émission où il y a voilà, cette polyphonie-là aussi, parce que avant l'émission, on vous a rendu hommage à travers voilà, notre station et on vous remercie d'avoir été présent. Donc désolé, mais encore une fois, mais il y a des liens quand même en tout ça, et même avec le Téléthon qui va prendre la parole maintenant, il y a des liens en tout ça. Si vous êtes tous des engagés contre les différents mots MAUX de notre petite société. Je disais tout à l'heure que j'avais pensé en vous écoutant voilà, il y a aussi des femmes qui ont du mal à faire les démarches parce qu'elles ont peur d'ouvrir la boîte de Pandore. Et ben voilà, désolé, mais dans cette fameuse boîte qui a été ouverte par Pandora, et ben il y avait le fameux chronomètre qui nous regarde. Donc je suis vraiment désolé, mais on refera des émissions avec vous tous, bien sûr, et parce que c'est très intéressant, hein, et c'est tellement utile. Michel ?
Oui, présent.
Voilà. Toujours là, toi. Hein. Ouais, toujours là, toujours sur le pont. Je crois que Jean-Luc fait des signes pour dire qu'il faut que tu te rapproches du micro parce que Jean-Luc va s'arracher ses derniers cheveux là si jamais tu voilà. te rapproches pas. Quoi qu'avec toi, il y a match. Hein. Ouais, je sais pas. Mais du coup, Michel, Téléthon, 1er juillet, fin décembre, début janvier, pour me faire plaisir, mais fin décembre. Donc, on le redira jamais assez. Le Téléthon, c'est pas que les 30 heures télévisées, même si c'est un point phare, un point essentiel, fondamental. Et donc, il est lancé, il est enclenché. Donc, t'es déjà épuisé, t'en peux plus. Hein.
Voilà, absolument. Le Téléthon, comme je le disais tout à l'heure dans l'émission qu'on a enregistrée, le Téléthon, donc, ce n'est pas que l'émission de télé. L'émission de télé est très importante, et très jolie, et très sympathique. Mmh. Depuis quelques temps, on présente beaucoup de nos réalisations, ce qui nous manquait peut-être avant. Les gens ne voyaient pas très bien à quoi servaient les 100 millions qu'on récolte chaque année. Souvent, on me dit « Mais où va tout cet argent? C'est beaucoup, etc. » Et donc, pour nous, il était important de montrer de plus en plus à quoi ça sert, de montrer pratiquement les réalisations et les avancées. Donc, le terrain, ça a commencé, effectivement, au mois de juillet. Là, sur le département, par exemple, on a déjà fait à peu près 10 à 15% des animations sur le terrain.
Ah déjà, c'est bien.
Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est la même chose, il faut quand même se mettre dans la tête que le terrain, c'est le premier canal de collecte. C'est ce qu'il y a de plus important pour le Téléthon. C'est de là que vient le plus d'argent, entre guillemets, directement. Après, vous avez le 36, 37, vous avez la carte bancaire, des choses comme ça. Mais c'est le terrain. Et c'est mon travail de coordinateur. Le coordinateur, il est chargé d'accréditer les animations pour que n'importe qui ne fasse pas n'importe quoi à un endroit en mettant une bannière FM Téléthon. Au pire, des fois, pour mettre de l'argent dans sa poche. Donc, ça, Le Téléthon, c'est très encadré, c'est très contractualisé. Il n'y a pas une animation de terrain sans contrat. D'ailleurs, les gens peuvent parfaitement demander le numéro du contrat, etc. Donc ça, c'est important.
D'ailleurs, on peut le dire, un exemple, j'ai oublié de le dire en début d'émission, un exemple. Le samedi, là, si vous écoutez l'émission en direct, et non pas en podcast, en rediffusion sur YouTube, tout ça, le samedi qui vient, donc le 29, je serai toute la journée devant le King Jouet d'Oudemont, on les remercie parce que c'est un partenariat qui dure, je serai devant, dans le froid, à faire de la sculpture sur ballon, et de jongler avec Léon de Téléthon, et là, chers auditeurs, vous pouvez venir, j'aurai dans la poche, bien sûr, l'accréditation officielle signée par Michel.
Et Chamalot a son contrat, voilà.
Voilà, c'est dit.
Et pour aller dans la continuité, bah, samedi, puisqu'on est à samedi en même temps, il faut savoir que par exemple à Clairlieu, au centre commercial, il y aura toute la journée des animations. Dimanche, il y aura un concert de chorale à Mazerul, dans un petit village.
Ouais, Mazerul, que tout le monde connaît, quoi.
Voilà.
Donc, je connais.
Ah, pardon, ok.
Donc, voilà.
Moi aussi.
Moi, okay. Bon, j'ai rien dit.
Donc, il y a quasiment, à partir d'aujourd'hui, il y a quasiment des animations tous les jours, y compris le week-end, puisque moi, je suis pris jusqu'au 20 décembre, et j'avais même oublié que j'avais réservé des vacances à partir du 18. Donc, vous voyez, le Téléthon, c'est tout le temps. Et important aussi, c'est ce que je dis aux gens de terrain, c'est le principal canal de collecte, et toute collecte est, entre guillemets, bonne à prendre. Il ne faut pas penser que parce qu'on fera qu'une marche, par exemple, avec les gens du village et que ça rapportera 50 ou 100 euros, c'est pas important. C'est très important, d'abord parce que ça solidarise, ça montre la solidarité du village. Ça permet des fois de rencontrer des gens qu'on ne rencontre pas tous les jours. Moi, souvent, dans les marches, je dis « Ah bah tiens, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu, machin, les gens se retrouvent, etc. » Et ce que je dis toujours, 1 euro de collecte, c'est 1 euro de plus que celui qui n'a rien fait.
Et d'ailleurs, tu me disais, les prix des... Quand on va au centre de Généton, on voit des appareils auxquels je ne comprends jamais rien, mais qui coûtent des pleins. Mais tu me disais, il y a aussi des petites...
Je prends un appareil tout simple. On a des cuves d'azote pour garder les échantillons sanguins. La cuve coûte 250 000 euros. Donc effectivement, on n'a pas beaucoup d'animations qui rapportent 250 000 euros. Mais on a des associations du département qui ont déjà rapporté 600 000 euros au Téléthon, par exemple, soit dit en passant. Mais dans cette cuve d'azote, elle sert à rien si dedans, il n'y a pas des éprouvettes. Et une éprouvette, ça coûte 5 euros. Donc, quelqu'un qui fait une animation qui rapporte 50 euros, bah, 10 des éprouvettes qui sont dans cette machine sont là grâce à lui. Donc, et on parlait de mots tout à l'heure. Bah, nous, on combat aussi des mots. On combat, en gros, 7 000... maladies dites rares, sachant qu'en réalité, elles ne sont pas si rares que ça. Déjà, elles sont 7 000, et plus celles qu'on ne connaît pas. Et les malades sont encore moins rares, puisque potentiellement, il y a 3 millions de Français qui sont concernés par ces maladies. Donc ça, c'est pour les maladies qu'on ne connaît pas et pour lesquelles on recherche des choses. Il faut savoir aussi, ce qui est extrêmement important, c'est que des découvertes qu'on a faites pour des maladies rares ou dites rares, sont directement applicables à des maladies beaucoup moins rares. On a plusieurs traitements qui sont appliqués pour le cancer, qui est loin d'être une maladie rare aujourd'hui. La première grosse découverte du Téléthon, c'était les bébés bulles. C'était des bébés qui étaient sensibles à tous les microbes qui passaient dans le coin. Donc, ils vivaient dans une bulle en plastique. Et les parents les touchaient à travers un canal en plastique. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps un de ces bébés bulles qui est sorti de sa bulle, qui a aujourd'hui 25 ans, qui n'a aucun traitement, etc. Par contre, ce qu'on lui a administré pour sortir de sa bulle, ça sert au traitement de la leucémie aujourd'hui. Donc vous voyez, on a plein de passerelles comme ça entre les maladies dites rares et les maladies habituelles. Le dernier exemple, c'est la rétinite pigmentaire. Il doit y avoir quelques centaines de personnes en France qui ont ça. Et ça va être appliqué à la DMLA. DMLA, c'est en gros 2,5 millions de personnes. Donc quand on donne au Téléthon, on donne à des maladies, enfin pour la recherche des maladies rares, mais on donne pour tout le monde.
Et puis un point commun là, avec France Victime, j'y avais jamais pensé, Michel. Mais je me rends compte aussi que quand tu as une maladie dont tu n'as jamais entendu parler, qui frappe tout dans une famille... J'ai une petite idée dans la tête, hein, mais je pense à une maladie, là, comme la maladie de Leber, dont j'avais une fois entendu parler au Téléthon. Bah, mine de rien, Tu fais pas forcément les bonnes démarches quand ça frappe une famille, où il y a peut-être déjà d'autres problèmes, on en parlait tout à l'heure. Quand ça arrive, ben finalement, si t'es pas informé, tu sais pas trop les démarches qu'il faut faire. Et en plus, quand c'est des maladies dites rares, souvent même les spécialistes, tu promènes de spécialiste en spécialiste, mais qui maîtrisent pas ça. Mais je suis en train de me rendre compte que vous avez un point commun, c'est que mine de rien, du coup, tu peux rencontrer aussi d'autres personnes qui, voilà, et qui peuvent te dire, oui, mais tu sais, il y a traitement, il y a ça, tu peux essayer ça.
C'est vrai, si je peux me permettre, c'est que...
Sur le jingle, oui.
Oui, donc, oui. En tout cas, il y a des belles choses à faire, parce que moi, je vois, il y a les familles, en tout cas, des fois, ne savent pas comment faire tel dossier, faire telle chose, avoir tel droit qui leur permettrait d'être plus disponibles pour s'occuper de leurs enfants, d'aller à l'hôpital avec eux. Et effectivement, le Téléthon, à travers son action, il met plein de chances disponibles aussi pour accompagner les familles, et ça, c'est important.
Oui.
Et puis, oui, vas-y sur le jingle, non, hein, parce que là, sinon
j'en ai. Sur le jingle en deux secondes. Connaître, c'est important aussi, parce que j'ai un exemple, une ambassadrice d'il y a quelques années qui s'appelle Mathilde, ouais, qui a passé une vingtaine d'années en fauteuil roulant, et on a trouvé ce qu'elle avait comme maladie. Elle avait une maladie, mais on ne savait pas ce que c'était. Et on a trouvé ce qu'elle avait comme maladie, et on a trouvé qu'il existait un médicament sur le marché. Donc, ce n'est pas uniquement de la recherche pour trouver des traitements, c'est aussi pour trouver des maladies pour lesquelles existent déjà des traitements.
La connaissance.
La connaissance, voilà. Ah, la connaissance.
La connaissance. Ouais.
Éviter les parcours que j'ai connus de ponction lombaire, de machin, de trucs. Alors que finalement, si on l'avait dit c'était ça, on allait tout de suite au bon endroit.
Elle est passée du fauteuil roulant à l'escalade.
Mmh. Eh ben, en tout cas, merci à vous. Désolé, hein, le petit jingle d'Adamo, hein, quand même. C'est chouette. Merci Jean-Luc à la technique. Merci Julien Dersen d'être resté à nos côtés. Car c'est aussi grâce à lui que nous sommes tous là aujourd'hui. Merci les Blues Roses, bravo. Merci à France Victime 54. Merci au Téléthon, soutenez bien le Téléthon, on est en plein dedans, là, soutenez, il faut battre le record de l'année dernière, merci à tous, on va en parler bien sûr tout au long du mois de novembre et décembre, à bientôt chers auditeurs.